France Musique.
Et à l'occasion de cette journée du 8 mars, quelle est la place des compositrices dans la programmation des concerts, des disques, des radios, dans les conservatoires également? Et puis, pourquoi les créatrices du passé sont-elles tombées, pour la plupart, dans l'oubli? Voilà quelques-unes des questions qu'on va poser jusqu'à 9h. Pour y répondre, nos invités seront la compositrice, une compositrice italienne, Clara Iannotta. France Musique diffusera d'ailleurs à la fin du mois la création d'une de ses œuvres avec l'Orchestre National de Metz. On sera également avec Claire Baudin, la directrice du Centre Présence Compositrice, centre de ressources qui est né l'an dernier, qui a notamment lancé cette plateforme dont on a beaucoup parlé ici dans Musique Matin, de demander à Clara. On sera aussi avec Olivier Lamary, le directeur de l'ensemble intercontemporain, pour voir comment les femmes d'aujourd'hui sont jouées, représentées dans l'ensemble. Et puis dans ce studio, ce matin, Elsa Fotorino, bien connue des auditeurs de France Musique. Bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve régulièrement dans la tribune des critiques de disques de Jérémy Rousseau, le dimanche à 16h, l'été également. Et puis vous êtes la rédactrice en chef de Pianiste, ce magazine qui, dans son numéro de mars-avril, cherche les raisons pour lesquelles ces compositrices du passé sont tombées ou restées dans l'oubli pendant si longtemps. C'est vous qui avez mené cette enquête passionnante, Elsa Fotorino, qui soulève plusieurs points. D'abord, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a incité à vous poser ces questions?
C'est déjà les contradictions qu'il y avait autour de ce sujet. C'est-à-dire que je trouvais que les discussions autour des compositrices étaient toujours assez polarisées. C'est-à-dire, j'entendais deux discours extrêmes, à savoir... Il n'y a rien d'intéressant et il n'y a pas d'œuvre. Donc c'est un stéréotype qui est véhiculé, qu'on entend assez souvent.
On entend toujours, hein.
Oui, qu'on entend absolument. Et de l'autre côté, j'entendais, mais il n'y a que des œuvres géniales. Cette injustice est absolument dommageable pour l'histoire de la musique, ça, ce qui est une vérité. Mais c'était un discours qui tendait à dire tout est génial aussi. Donc moi, je savais pas trop où me situer par rapport à ça. Donc l'idée, c'était d'objectiver un petit peu cette information et d'essayer de comprendre et de poser un petit peu, de faire un petit état des lieux. Pour comprendre cette situation aujourd'hui, qui est quand même assez criante, cette inégalité quand même, malgré tout.
Alors vous soulevez dans cet article plusieurs points. D'abord, les femmes compositrices les plus connues portent un patronyme connu, celui d'un homme, en l'occurrence, Schumann. Absolument. Et Mendelssohn.
Voilà, je pense que c'est à peu près les seuls que n'importe quelle dame serait capable de citer. C'est ça, c'est Fanny Mendelssohn et Clara Schumann, puisqu'une femme se définit avant tout par son appartenance, par un homme, par soit le père, soit le mari. Donc en particulier dans la création artistique à cette époque-là. Et toutes ces femmes qui ont tenté par la suite, enfin, qui ont écrit, qui ont composé, il y en a énormément qui ont choisi de prendre un patronyme ou de gommer leur identité pour la masculiniser, comme Mel par exemple Bonis. Mel Bonis, voilà, c'est l'exemple que j'allais citer. Mais il y en a d'autres, effectivement, le fait de gommer cette ambiguïté permettait voilà, d'effacer, de masquer un petit peu ses préjugés. Il y a cette citation de Liszt aussi, qui est assez connue, qui disait à Marie-Jaël, un nom d'homme et vos partitions seraient sur tous les pupitres. Donc c'est quand même assez éloquent. Quand on lit ce genre de choses.
Et la musique de Marie-Jaël, qu'on redécouvre, qui est de plus en plus jouée, on l'entendait encore dans l'émission de Clément Rochefort samedi dernier, avec ce disque que va faire Célia Onetto Ben Saïd. Il y a quand même de plus en plus de disques qui sortent, on en parlera tout à l'heure avec Émilie et Rodolphe à 9h, le Quatuor à l'Ipsos, qui sort un disque également. Mais vous soulevez d'autres points, Elsa Fotorino, dans Pianiste, notamment le cas des femmes aristocrates.
Bien sûr, qui, par leurs conditions et leur statut social, ne devaient pas travailler. C'était quelque chose de considéré comme assez vulgaire. Il ne fallait pas travailler, il ne fallait pas gagner d'argent. C'est quelque chose qui était, voilà, dans ces sociétés-là, 19e siècle, 18e siècle, quand même très très mal perçu. Donc ces femmes étaient réduites à composer de la musique d'agrément, la musique de salon, donc de la musique amateur, des jolies romances. Du moment qu'elles écrivaient dans les codes du genre et qu'elles ne bousculaient pas certains standards esthétiques, ça ne dérangeait personne, voilà, qu'elles fassent de la musique de salon, qu'elles fassent plaisir aux oreilles et qu'elles soient voilà, dans une logique tout à fait décorative.
Et puis pour composer, il faut l'apprendre, notamment pour composer au-delà, par exemple pour orchestrer, ça s'apprend. A priori, quand les classes de composition s'ouvrent-elles aux femmes?
C'est pas avant les années 1850. Et il y a une certaine hypocrisie malgré tout, puisque elles peuvent être au Conservatoire de Paris à partir des années 1850, mais par contre, elles n'ont pas accès au prix de Rome, ce qui est quand même la reconnaissance suprême en matière de composition, pour accéder à une notoriété publique, esthétique, artistique, enfin une reconnaissance tout simplement. Donc elles peuvent à la fois étudier au Conservatoire, mais il y a cette frustration qui est quand même terrible, c'est que de ne pas pouvoir prétendre à ce prix-là.
Il y a quand même de vraies découvertes depuis quelques années. On en parlera notamment tout à l'heure avec Clara Baudin. Et vous le citez dans votre enquête, le cas de Rita Stroll.
Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, enfin, c'est ce qui manque en fait cruellement à ce répertoire-là. Ce sont des références discographiques, c'est-à-dire que comment un répertoire peut être porté, tout simplement par ses interprètes. Et tant qu'il n'y a pas d'interprétation de référence, en particulier des œuvres du 19e et du 20e siècle, où vraiment l'artiste s'engage, où l'interprétation, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel pour communiquer, faire passer une œuvre comme ça, très subjective, c'est vrai que c'est assez essentiel. Donc, quand David Cadouche et Edgar Moreau ont enregistré la sonate Titus et Berenus, qui est une grande sonate de Rita Stroll qui a été composée en 1898, on peut pas s'empêcher d'entendre ces accents brahmsiens. C'est une grande sonate héroïque, extrêmement tragique, magnifique. Elle ne dépareille absolument pas à côté de grands compositeurs romantique du 19e siècle. Mais encore une fois, Rita Stroll, elle a écrit cette œuvre en 1898, 30 ans plus tôt, Brahms écrivait ses propres sonates. Ce qui signifie qu'elle a pu aussi être disqualifiée non seulement parce qu'elle était une femme, mais parce qu'elle a écrit ces œuvres-là 30 ans plus tard. Donc ça pose aussi cette question du goût et tout simplement des critères du passage à la postérité. Et comme on le sait souvent, ceux qui sont considérés comme des suiveurs restent dans l'ombre. Voilà. Mais c'est le cas aussi de beaucoup d'hommes, hein. D'ailleurs, de beaucoup d'hommes, de Méhul, de Grétry, qui étaient joués dans tous les théâtres d'Europe et qui n'ont pas non plus survécu à ce tri, à cette sélection du temps.
Et aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de Rita Stroll que vous évoquez dans votre enquête, il y a encore plein de partitions qui sont à l'état de manuscrit, c'est incroyable.
C'est ça, c'est 80% de sa musique et c'est peut-être un des problèmes fondamentaux aujourd'hui, c'est que pour que ce répertoire soit joué, il faut pouvoir y avoir accès. Et là, pour l'instant, c'est quand même encore assez compliqué. Par exemple, prenons l'exemple de cette sonate. Aujourd'hui, si un duo d'interprètes souhaite la jouer, pour se la procurer, il y a un exemplaire à la BNF, ou alors peut-être faut appeler le Palazzetto Bruzane, qui pourra fournir une copie, mais il n'y a aucun exemplaire qui est en vente dans le commerce, par exemple. Ou, mettons, pour des chambristes qui souhaitent jouer un trio ou un quintet de Louis Farinck, il faudra débourser des centaines d'euros pour pouvoir se procurer la partition dans une bonne édition. Donc ça, c'est presque la base du problème. C'est ce qui fait aussi que les programmateurs sont parfois frileux, puisque comme il y a peu d'interprètes qui peuvent avoir accès à cette musique, quelles références discographiques, eux, peuvent-ils se mettre dans l'oreille ? Donc comment miser sur une œuvre qu'on ne connaît pas, à laquelle on n'a pas accès ? Ce sont des choses qui sont quand même aujourd'hui assez complexes.
Compositrice, les vraies raisons d'un oubli, c'est votre enquête, Elsa Fotorino, dans le numéro mars-avril de Pianiste. Il y a également un petit guide d'écoute avec plusieurs propositions, ça va de Hildegard von Bingen, la première, jusqu'à des compositrices du XXe siècle. Je vous propose d'écouter ici un disque paru l'an dernier, Compositrice, et notamment la musique de Clémence de Grandval. Thank you. La musique de Clémence de Grandval, c'était Julia Turel à la flûte, Hélène Couvert au piano sur un disque compositrice paru l'an dernier. On est toujours avec Elsa Fotorino, rédactrice en chef du magazine Pianiste qui consacre son numéro de mars-avril à ces questions autour des compositrices tombées ou restées dans l'oubli. Mais on est aussi avec Claire Baudin. Bonjour Claire Baudin.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Vous êtes la directrice du festival Présence Féminine et également le nouveau centre Présence Compositrice que vous avez créé. Quand vous avez créé ce centre et ce festival ?
Alors en fait, le festival, lui, est né en 2011 sur l'agglomération de Toulon. Et le centre Présence Compositrice, lui, il a été mis officiellement en chantier, on va dire, il y a 2 ans avant le 21 juin de cette année. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons sorti le site internet le 21 juin dernier. Voilà, et depuis, on est présent sur internet et puis avec un certain nombre d'actions au quotidien.
Et notamment, demander à Clara, cette plateforme, à quoi sert-elle, à quel besoin répond-elle ?
En fait, c'est très simple. Cette plateforme, elle répond au besoin qui a été identifié tout à l'heure par Elsa Fotorino. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de cette expertise qu'on a bâtie pendant 10 ans d'édition de festival, les questions récurrentes, c'était qui, quoi, où et comment. C'est-à-dire que il peut y avoir une volonté de jouer des compositrices. Le problème, c'est quand on ne sait pas qui jouer et quoi jouer, ben c'est compliqué. Quand on n'a pas l'idée du nom, on n'a pas l'idée de l'œuvre. Et l'accès aux partitions est très souvent compliqué. C'est un peu le parcours du combattant. Donc la plateforme Demandez à Clara, elle a pour but justement de répondre à ces questions et de mettre à disposition, de faciliter en fait l'accès aux œuvres. Donc concrètement, on a des fiches œuvres qui se présentent avec le nom de l'œuvre, le titre de l'œuvre, de l'édition quand on a la possibilité d'avoir une édition, parce que c'est pas toujours le cas, mais on essaye aussi de donner des indications si on peut la trouver en bibliothèque. Et puis on a le minutage, la durée, la nomenclature, des notes, etc. Donc vraiment le but, c'est de faciliter l'accès à l'œuvre.
Mais on peut charger des partitions ou on peut les commander, savoir comment les trouver, parce qu'on le disait par exemple dans le cas de Rita Stroll, moi j'ai découvert sa musique en écoutant ce disque de David Cadouche et Edgar Moreau. Il y a 80% encore en manuscrit, on fait comment ?
Alors, en fait, il y a quand même beaucoup de partitions qui sont éditées. Le problème, c'est que souvent, elles sont éditées dans des éditions pas forcément faciles à trouver, des éditions étrangères. Il y a des éditeurs spécialisés, par exemple, Hildegard Publishing Company ou l'édition Furore. Donc, en fait, déjà, d'indiquer chez qui la partition est trouvable, c'est quand même une bonne moitié de chemin à accomplir. Ensuite, il est évident qu'il y a un véritable travail à faire auprès des maisons d'édition. Pour qu'elle s'engage en fait dans cette reconnaissance et de cette sortie de l'invisibilité des compositrices et qu'il puisse y avoir des publications, ça c'est certain. Après, vous savez, l'accès aux bibliothèques est possible aussi à partir du moment où on dit qu'une partition est disponible sous une cote qu'on peut donner dans telle ou telle bibliothèque. On a souvent affaire à des personnes en bibliothèque qui sont tout à fait ravies d'envoyer un manuscrit. Alors c'est vrai, il faut se donner la peine ensuite de lire le manuscrit, c'est pas toujours évident. Mais voilà, ça fait partie aussi, je dirais, de l'engagement qu'on peut avoir envie d'avoir en faveur des compositrices, comme l'a eu Julia Turel, justement, précédemment écoutée.
Et justement, c'est pas souvent des femmes, musiciennes, interprètes, qui s'emparent de ces musiques des compositrices. J'ai l'impression que c'est souvent elles qui enregistrent, par exemple.
Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui s'emparent du sujet parce que je pense qu'elles se sentent concernées en premier lieu, ça c'est certain. Personnellement, je trouve que c'est extrêmement important justement de ne pas lutter contre une exclusion en créant une autre. Donc nous, on a eu toujours à cœur, pour la programmation du festival Présence Féminine, d'inciter les interprètes hommes à s'emparer de cette musique. On ne pourra la mettre en valeur que si vraiment toutes et tous, on fait ce qu'il faut pour la mettre en valeur.
Partager ce sentiment, Elsa Fotorino ?
Oui, absolument. C'est sûr que c'est très important dans ces combats-là d'égalité de pas être fermé justement et d'essayer d'élargir le spectre le plus possible pour porter un message justement qui soit précisément démocratique.
Le festival Présence Féminine, quelle est l'idée ? Est-ce que c'est idéologique de ne programmer que des femmes ?
Alors, idéologique,
le mot est moche.
Oui, il est un peu compliqué à prononcer aussi. En tout cas, c'est une...
Militant.
C'est une après, on peut trouver des tas de mots. Je voudrais vraiment insister sur une chose, c'est que à aucun moment, on a eu l'envie ni l'idée de cliver. On entend souvent parler de ghettoisation, de peur du ghetto, etc. D'ailleurs, ça fait le sujet d'un petit édito qui va sortir avec notre newsletter aujourd'hui, parce que moi, c'est un mot que je trouve totalement inapproprié. En fait, l'idée, c'est un focus. Parce qu'en fait, vous savez qu'on se présente comme une sorte de laboratoire. Dans un laboratoire, quand on fait de la recherche, on ne peut pas chercher sur tous les sujets. Et si on veut aller vraiment chercher dans les œuvres des femmes, les œuvres qui méritent de rester à la postérité, qui méritent d'être incluses dans le répertoire des étudiants, des étudiantes, des concerts, des programmes d'enregistrement, etc., il faut pouvoir leur donner les conditions d'être identifiées dans de très bonnes conditions, et notamment d'être entre les mains de professionnels. Ce qui a rarement été le cas. Parce que vous parlez de l'engagement des femmes, cet engagement des femmes, il a parfois très très militant, il a eu raison d'être, mais ça n'a pas forcément toujours été des grands professionnels de la musique qui se sont emparés de ces œuvres-là. Ça a eu le mérite d'exister, mais maintenant il faut mettre ces œuvres dans les mains de grands interprètes et de grandes interprètes. Donc c'est le but du festival, ça a été le but du festival Présence Féminine, de focusser vraiment, non pas pour cliver, mais pour explorer un répertoire. Et c'est exactement tout à l'heure, Elsa Fotorino encore citait le Palazzetto Bruzane, c'est l'engagement du Palazzetto Bruzane en faveur de la musique romantique française. Voilà, c'est l'engagement du Centre de musique baroque de Versailles qui focus sur 200 ans de musique, le Palazzetto 150 ans. S'occuper des femmes, c'est faire un énorme focus sur 10 siècles d'existence des compositrices. Donc ça mérite, je pense, à un certain moment que vraiment on se focalise sur ce sujet.
Les lignes bougent, Claire Baudin, on le voit quand même depuis quelques années, notamment dans les disques qui paraissent. Qu'en est-il des programmations de concerts et même des programmations à la radio? Est-ce que vous nous observez avec un chronomètre?
Non, je vous observe pas avec un chronomètre, avec mes oreilles en revanche. C'est vrai que quand je suis au volant de ma voiture, j'aime bien entendre une œuvre de compositrice que j'avais pas prévu d'écouter. Donc je pense qu'il y a encore des progrès à faire, ça c'est indéniable, mais il y a quand même une réelle prise de conscience, et justement tout l'enjeu de notre travail, à la fois de la base de ressources, de la base de données demandée à Clara, et puis du centre de ressources, c'est justement d'aider aussi à la programmation, d'inciter, de soutenir, d'accompagner. On commence un travail, par exemple, en direction des orchestres, qui a l'air plutôt bien parti. Il faut soutenir tout ça. Je crois qu'il y a une réelle prise de conscience. Il y a une envie, et maintenant, il faut pouvoir alimenter cette envie et que ça soit pas simplement quelque chose qui ne soit pas pérenne, en fait.
Claire
Baudin. Il faut
Baudin.
Mettre à disposition des outils. Voilà.
Merci beaucoup, Claire Baudin. Demandez à Clara, c'est donc cette plateforme, plus de 9000 œuvres, 900, près de 1000 même compositrices référencées depuis le 21 juin 2020. Et parmi elles, votre choix ce matin, c'est Elisabeth Jacquet de la Guerre.
Mais les morts ne seraient pas allés.
extraite d'un opéra écrit par Elisabeth Jacquel de la Guerre. Il y a peu de femmes compositrices qui au 18e ont écrit un opéra. Céphalée et Procris avec Musica Fiorita dirigée par Daniela Dolci. On parle depuis 8h25 de compositrice, mais on n'est pas encore avec une compositrice, sauf si Elsa, vous nous révélez que vous écrivez de la musique.
Non, pas encore, mais...
On est avec Clara Iannotta, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, vous n'êtes pas en studio, d'ailleurs on entend le petit décalage dû à la technique. Vous êtes italienne, vous avez appris à Rome. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre apprentissage de la composition parce que vous étiez une femme? Est-ce que ça a été des embûches supplémentaires, des difficultés? Clara Iannotta, est-ce que vous êtes avec nous? On vous a perdu peut-être. Ben, je vous propose. Ah. Bon, petit souci, ben, je vous propose qu'on écoute votre musique et on essaie de vous se reconnecter avec vous dans un instant. Il coloré del ombra de Clara Iannotta avec l'ensemble Longlish. Vous êtes revenu Clara Iannotta avec nous. Je vous posais cette question, cet apprentissage de ce métier de compositeur, de compositrice. Est-ce que vous avez rencontré difficulté du fait d'être une femme?
Oui, alors en fait, j'étais en train de dire que autant qu'italienne, quand j'étais en Italie et j'ai fait mes études, j'étais toujours entourée par des femmes. C'est-à-dire que dans ma classe de composition, il y en avait toujours. Par contre, en fait, cette représentation, elle n'était pas dans les concerts. Et puis, en fait, dans toutes mes études, jusqu'à 31 ans, j'avais que des professeurs qui c'était des hommes. Et notamment, en fait, toutes les partitions qu'il apportait dans la classe, c'était toujours des hommes. Et donc ça, c'était la difficulté. C'est-à-dire qu'on a toujours, on grandit, on fait toutes nos études et on a toujours dans la tête une figure, un modèle à laquelle on s'inspire. Et par contre, en fait, tous les modèles, c'était toujours des hommes. Donc ça, j'avoue qu'à un moment donné, en tant que femme, on s'en doute un peu. Et est-ce qu'on peut vraiment poursuivre, faire cette métier de compositeur vu que il n'y a pas des grandes compositrices que les professeurs, par exemple, en fait, ils pensent qu'ils peuvent apporter leur partition dans la classe pour les étudier. Donc ça, c'était la seule difficulté, j'avoue, que j'ai rencontrée vraiment.
Aujourd'hui, vous êtes italienne et vous travaillez beaucoup en France. Et d'ailleurs, on entendra le 29 mars sur France Musique votre création française, Moult, avec l'Orchestre National de Metz. Est-ce que vous voyez des différences entre la France et l'Italie sur cette question-là, Clara Iannotta?
Bah, disons que...
Et l'Autriche, d'ailleurs, aussi.
France aussi. Oui.
Puisque et vous aussi êtes directrice artistique d'un
j'habite
festival.
J'habite en Allemagne. Oui, c'est ça. J'avoue que la France, il y a des problèmes aussi en France. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes études au CNSM, au Conservatoire de Paris, et aussi à l'IRCAM, et surtout au Conservatoire de Paris, par exemple. En fait, j'étais l'une des très, très peu femmes étudiantes. Et à l'IRCAM, d'ailleurs, j'ai eu aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait des blagues, disons, qui étaient faites, que c'était un peu discriminatoire. je dirais. Et aussi, d'ailleurs, en fait, dans les festivals, dans les grands festivals aussi en France, le Festival Présence, par exemple, etc., il y a toujours une très petite, disons, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont représentées. Qui c'est dommage, parce qu'en fait, moi, j'avoue que ma carrière a commencé parce que j'étais découverte par Josephine Markowitz, voilà, la directrice artistique du Festival de Thon. Et donc ça, c'est un peu, c'est, après, dans tout cet, pays, il y a toujours des différences, évidemment. Et donc, en Allemagne, il y a un peu plus de femmes. Mais de toute façon, la situation n'est pas la meilleure, hein. Nulle part. Donc, voilà, on partage un peu ce problème de représentation. Et ce problème de représentation est toujours là parce que je pense qu'il y a une ignorance et un travail qui n'est pas très bien fait par les directeurs artistiques qui sont payés pour faire de la recherche aussi, pour rechercher.
Clara Yenuta, vous êtes directrice artistique d'un festival de musique contemporaine à Bludenz en Autriche. J'imagine que vous avez à cœur de programmer aussi des compositrices et que c'est quelque chose qui vous soucie.
Oui, enfin, disons que pour moi, la chose la plus importante, c'est la qualité de la musique en présence. C'est-à-dire que toutes les fois, en fait, qu'on parle de présence féminine, il y a des gens qui disent ah non, il faut, c'est la qualité la première chose. Bah bien sûr, c'est la qualité, mais autant que directeur artistique, il faut que je fasse une recherche. C'est-à-dire que moi, je veux représenter une communauté de musique contemporaine qui représente quand même une diversité. Et pour faire ça, je ne peux pas que choisir les compositeurs que je vais représenter dans mon festival, si je vais dans les autres festivals, en fait. Parce que dans les autres festivals internationaux, par exemple, en fait, il y a toujours un manque. C'est-à-dire que les proportions ne sont pas bien gérées. Et donc, il faut que je fasse toute une recherche, en fait, sur Internet, etc., pour trouver des gens qui ne sont pas encore, qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que les hommes, enfin, disons, etc. Donc, pour moi, c'est juste ce que j'ai fait, ce n'est pas ok, je veux vraiment faire le 50% de genre, etc. Non, c'est pas ça. Il faut que je recherche des personnes jeunes ou pas jeunes qui n'ont pas eu les mêmes possibilités, mais qu'on doit écouter parce qu'ils sont assez magnifiques. Voilà.
Et ben on écoutera Moult, votre création française, le 29 mars à 20h sur France Musique avec l'Orchestre National de Metz. Merci Clara Yenuta.
Merci à vous.
Journée internationale des droits des femmes sur France Musique.
Il n'y a pas que des femmes, heureusement, pour défendre cette place des compositrices dans les programmations. Bonjour Olivier Desmarais.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Vous dirigez l'ensemble intercontemporain. Quelle est la place des compositrices dans la programmation de l'EIC?
Elle est importante dans l'esprit, elle n'est pas suffisante dans les faits.
Pourquoi?
Parce que on progresse. Disons que on vise une représentativité proche de celle de la société. C'est pas très difficile de faire un 50-50 sur la base de la société en théorie, mais dans la réalité, je m'inscris complètement dans le prolongement de ce que vient de dire Clara Yenuta. On cherche et on doit chercher, et naturellement, si on ne cherche pas, on est plutôt à nous actuellement. On a commencé assez bas, à 8-10%. On est plutôt actuellement à 15% de compositrices jouées. Et voilà, et c'est un travail du coup de faire monter cette proportion le plus possible.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans les classes de composition à Paris, à Lyon.
Alors, il y en a de plus en plus. Je dois avouer qu'il y a quelques années, il y a 4-5 ans, je m'entendais souvent dire non, on ne peut pas t'indiquer de jeunes compositrices puisqu'il n'y en a pas qui rentrent, il n'y en a pas qui sortent. Et puis, c'est plus du tout le cas. Autant à l'IRCAM qu'au CNSM de Lyon ou de Paris, il y a de plus en plus de femmes et du coup un vivier qui se crée.
Il y a cette crainte, et on l'entendait dans la bouche de Clara Yenuta, je me souviens quand on recevait Camille Pépin il y a un an, elle avait aussi cette crainte qu'on ne la programme que parce que c'est une compositrice et que ce serait à la mode ou qu'il faudrait... Est-ce que les créatrices que vous rencontrez, elles ont parfois cette crainte-là d'être considérées d'abord par leur genre?
Oui, c'est vrai. Je pense que tous les discours très incitatifs que peuvent avoir le ministère et d'autres institutions autour du public, on va dire, laissent craindre ça, laissent penser ça, mais surtout laissent craindre ça. En réalité, j'ai l'impression que c'est pas tant le cas que ça. Nous, notre position, par exemple, à l'ensemble intercontemporain, c'est d'être vraiment ce que vient de dire Clara Iannotta, c'est d'être très attentif, très en recherche. C'est pas de la discrimination positive au sens plein et entier. C'est un état de veille, de surveille, de recherche. Voilà.
Merci Olivier Lemarié, directeur de l'ensemble intercontemporain. On est un peu pris par le temps, mais on continuera ce débat et cette discussion. Merci Elsa Fotorino. Je renvoie au magazine Pianiste qui vient de paraître avec cette enquête sur les compositrices oubliées.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
À réécouter sur francemusique.fr.